Taïf. Alors aujourd'hui, on va commencer la jurisprudence, la purification. Donc le premier sujet dans la jurisprudence, on parle de purification. At-tahara, la purification, le musulman doit se purifier. Bien sûr, la purification, elle est interne et externe. Purification interne, c'est une obligation. Hein. On purifie nos cœurs de toutes les maladies qu'on a. Hein, c'est très important. Hein. Comme dit Abu Hamd al-Ghazali, on a plus de 566 maladies. Donc, on croit qu'on a deux ou trois maladies. Non, l'homme, il est plein de maladies du cœur qui sont très graves. Hein. Ils sont pires que les maladies extérieures. D'accord ? Maladies intérieures, c'est dangereux. D'ailleurs, le professeur Rassou nous dit dans un hadith, il y a une chair en l'homme, si elle est bonne, tout le corps il est bon. Si elle est mauvaise, tout le corps il est mauvais, à savoir, c'est le cœur. Notre sujet, nous, c'est la purification. Point de vue juridique, c'est une obligation. C'est une obligation, donc nous devons nous purifier. Pourquoi? Avec quelle eau? Dans quelles conditions? Qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce qui est recommandé? Qu'est-ce qui est conseillé? Qu'est-ce qui est déconseillé? Tout cela, nous allons, inshallah, essayer de le traiter. Donc la purification est une obligation par le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, la sourate Tawbah, verset 108, حيث قال عبد الله بن مسلم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Il en est des hommes qui aiment se purifier. Allah Azza wa Jal aime ceux qui se purifient. Dans la Sunna, il y a plusieurs versets, hein, juste je cite cela au passage. La yaqbalullahu salatan bighayr tahurin. Allah Azza wa Jal n'accepte pas de prière sans purification. La purification comporte deux choses. Alors, purification du corps et purification des choses qu'on porte. Maintenant, on va parler de la purification du corps. La purification du corps, il y a deux genres, ce qu'on appelle les ablutions. Il y a les grandes ablutions et les petites ablutions. D'accord? Les grandes ablutions, on va détailler doucement, doucement, ne vous inquiétez pas. Il y a les grandes ablutions et les petites ablutions. Alors, les grandes ablutions, c'est comme vous dites, quelqu'un qui va se doucher pour faire la prière, un couple qui a eu des rapports, il faudrait qu'il prenne les grandes ablutions, ensuite les petites ablutions pour faire la prière, d'accord? Ou bien une femme qui avait ses règles, ensuite elle est devenue propre, il faudrait qu'elle fasse ses grandes ablutions pour faire les petites ablutions pour aller faire la prière, par exemple. Mais tout cela, on va le traiter, Inch'Allah. Alors, aussi, quand on... ça se concerne les ablutions, aussi quand quelqu'un porte en lui, ou bien il est taché d'impureté, il doit laver, purifier, il doit laver cette impureté qui tombe sur lui. D'accord? On parle bien de l'école malikite. D'accord? Donc, si on porte des impuretés, on va parler quelles sont les impuretés, par exemple du sang, ou bien des urines, ou bien des excréments. Tout cela, si vous êtes taché de ça, vous devrez laver cette partie-là qui est tachée, sinon la prière n'est pas valable. Ensuite, on va parler des conditions. Quelle est l'eau qui est conditionnée, avec quelle eau on va se laver, et s'il n'y a pas d'eau, etc., on va parler de tout cela, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est des généralités, afin, c'est une sorte d'introduction pour comprendre, Inch'Allah ta'ala. Non. Alors, avec quelle eau on a le droit de faire nos ablutions? C'est-à-dire, c'est la même eau qui est destiné à faire les ablutions, les grandes et les petites, aussi c'est les mêmes conditions de cette eau qui nous permettent de se nettoyer quand on a des impuretés. C'est la même. Alors, quelle eau, quelle est cette eau, quelles sont ces conditions de l'eau? Alors, toute eau naturelle, on a le droit de l'utiliser pour faire ces grandes ablutions. On va parler de ce que ça veut dire l'eau naturelle. L'eau qui est dans sa nature. Pour faire les ablutions, les grandes ablutions, les petites ablutions, et pour enlever des impuretés. Alors, c'est quoi l'eau naturelle? L'eau naturelle, c'est l'eau de la mer, hein, même si elle est salée, c'est considéré comme eau naturelle, on a le droit de faire les petites, les grandes ablutions, et enlever avec les impuretés. L'eau de la pluie, d'accord? L'eau des puits, les puits, l'eau qu'on peut extraire de la neige, et l'eau tout simplement du robinet de chez vous quand vous ouvrez, ou bien que vous avez acheté des Evian, Volvic, tout ce que vous voulez, Vital, machin. Tout ça, c'est de l'eau, c'est-à-dire de l'eau de source, l'eau qui sort directement de la nature. C'est-à-dire qu'il n'a pas subi un changement, bien les eaux qu'on boit, hein, ils ont subi des changements industriels, mais ils sont gardés dans leur nature, d'accord. L'eau qu'on boit, des bouteilles, etc., etc. Mais ils sont gardés dans leur nature. Alors tout ce qui sort de la montagne, tout ce qui vient des sources, tout ce qui vient de la mer, toute cette eau naturelle, c'est cette eau-là, quand vous ouvrez le robinet, même si des fois on ouvre le robinet, on voit que l'eau, elle porte un petit peu une certaine couleur blanche. Ça, c'est pas le calcaire, ils mettent des produits, c'est-à-dire dans la ville, etc. À un moment donné, hop, cette couleur blanche, on ne la voit pas. C'est-à-dire, on ne peut pas éviter ça. Cette eau aussi, elle est valable. Alors, moi, je vais vous poser une question. Dans quelques pays, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on met? On remplit des grandes citernes, des grandes... des citernes en plastique, ce que vous voulez. Que les gens, des fois l'eau part, je connais moi des pays où des fois une semaine il revient l'eau, 3-4 jours, hein, on a assisté à ça. Alors vous avez on prend des petits bocals, d'accord, on remplit, on fait l'eau, etc. Alors en général, on dit pour que l'eau soit propre, pour tuer les microbes, etc., etc., on met 2 gouttes d'eau de Javel dans l'eau. Dans une bouteille d'eau, on met 2 coups de javel, c'est bien pour que ça soit pour tuer les microbes, etc. Alors on avait un monsieur, il est venu, toutes les grandes citernes là, il avait de l'eau de javel dedans. C'est une eau qui n'est pas valable. Et pourtant tous les musulmans qui ont fait la prière, ils ont prié avec cette eau. D'accord. Alors les conditions, écrivez, pour que l'eau soit valable, il ne faut pas que son odeur, sa couleur, et son goût soit changé. C'est-à-dire l'eau dans sa nature, on a une eau dans sa nature, il faut faire attention, si son odeur, ou son goût, ou sa couleur est changée, elle n'est pas valable. C'est-à-dire que tu as préparé de l'eau, par exemple pour faire les ablutions, ensuite, tu as ton petit frère, ta petite soeur, il est passé avec du coca, du jus, etc., hop, il a renversé un petit peu dans l'eau, hop, tu as vu que la couleur, elle a changé. Ou bien le goût, il a changé. Ou bien l'odeur, elle a changé. Est-ce que cette eau, elle est valable? Elle n'est plus valable. Gardez ces 3 grandes caractéristiques. L'odeur, le goût, la couleur. C'est une des 3 à changer l'eau, elle n'est plus valable. Me forme? À condition, quand on va le voir, Inch'Allah, à condition que cette eau-là, elle ne sort pas naturellement de la montagne ou de la source, comme ça. Si elle sort de la source, ce que vous avez, une montagne, l'eau, elle sort de la source avec un goût. Elle sort de la source avec une couleur. Elle sort de la source avec une odeur. Si elle sort, elle sort une eau, hein, qui sort à l'origine comme ça, elle est valable. C'est-à-dire, ce qui n'est pas valable, si elle subit un changement. D'accord? Vous avez une montagne, vous avez des arbres de, je sais pas moi, d'un fruit quelconque, etc. L'eau qui passe en dessous, elle va porter le goût de ces fruits, ou bien elle va porter le goût de ces arbres-là qui sont là, ou bien vous avez des minéraux qui sont en dessous, de couleur rouge, du fer, ce que vous voulez. Et cette eau, quand elle sort, elle a une couleur jaune ou rouge, etc. Cette eau, elle est valable. Parce que pourquoi? À l'origine, elle sort comme ça. Par contre, si elle subit un changement, contraire à ce qu'elle a été, là, cette eau, elle n'est pas valable. On va voir, elle peut être utilisée, elle est utilisable pour cuisiner, tout ce que vous voulez, mais elle n'est pas, on ne peut pas l'utiliser ni pour la prière, ni pour faire les grandes et petites ablutions, ni pour enlever les impuretés. Sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à présent, c'est bon, tout le monde a compris. Eden, donc l'eau, alors, si on a de l'eau pure, naturelle, et qu'on n'a subi aucun changement, on peut l'utiliser dans les ablutions, grandes et petites ablutions, et enlever les impuretés. On est bien d'accord. Maintenant, on a de l'eau, mais elle a changé par quelque chose qui est pur. Le lait, les boissons, tout ce que vous voulez. Quelque chose qui n'est pas impur, quelque chose qui est pur. Mais elle a changé, elle a perdu quoi? un goût, ou bien une couleur, ou bien tous en même temps. Bien, la couleur n'est pas la bonne, minimum un. Est-ce qu'il est valable pour faire les ablutions et enlever les impuretés? Est-ce qu'elle est valable? Elle n'est pas valable, même si ce qu'il a changé est quelque chose de pur. Elle n'est pas valable. Vous avez compris? Mais le fait qu'elle n'est pas valable, on ne va pas la jeter. On va l'utiliser pour boire. On va l'utiliser dans la cuisine. On va l'utiliser. Vous avez compris? On ne la jette pas. Qu'est-ce qui est jeté? Une seule chose. Si on a une eau qui a changé par une impureté. Vous avez un petit enfant, il a trouvé de l'eau, hop, il a uriné dedans. Il a changé son goût, il a changé sa couleur ou il a changé son odorat. Ça, s'il y a le changement, cette eau doit être jetée. Jetée, c'est-à-dire on peut le donner aux animaux pour qu'ils la boivent, on peut l'utiliser pour arroser les arbres, etc. etc. Est-ce que tout le monde a compris? Dans quel cas l'eau n'est pas utilisable? Si, utilisable du tout. C'est-à-dire, ni pour le manger, ni pour... Si elle est changée par une impureté. Une impureté, c'est le sang, c'est le tout ce qui est impur. D'accord? C'est les urines, etc., on va le voir. Par contre, maintenant, on a un autre cas. On a une bassine d'eau. Il y a deux gouttes d'urine qui sont tombées dans une bassine d'eau. Les urines, c'est des impuretés ou non? Impuretés. Ces gouttes qui sont tombées, elles n'ont pas changé l'eau. Mais on est sûr qu'elles sont tombées dedans. Elles ont changé ni le goût, ni l'odeur, ni la couleur. Elles sont tombées dedans. Il est valable d'utiliser cette eau. Il est valable d'utiliser cette eau. Dans les grandes ablutions, parce qu'il n'y a pas de changement. Nous, on a dit la condition, c'est le changement. Il n'y a pas de changement. Il est valable d'utiliser cette eau dans les ablutions, les grandes et petites. Il est valable d'utiliser cette eau pour enlever les impuretés, il est juste déconseillé. Qu'est-ce que ça veut dire déconseillé? Je ne me rappelle pas si on a écrit les cinq principes ou les écrits. Alors, un, l'obligation. Alors, l'obligatoire, c'est-à-dire, on doit le faire. Celui qui ne le fait pas commet un péché. D'accord? Si on le fait, on est récompensé. Si on ne le fait pas, on commet un péché. Ça, c'est l'obligatoire. À l'opposé, vous avez l'interdit, le haram. C'est-à-dire, le haram, l'interdit, si on le fait, c'est la définition concrète de l'obligatoire. L'interdit, si on le fait, qu'est-ce qu'on commet? Un péché. Par contre, si on ne le fait pas, on s'abstient de faire du péché, on a des bonnes actions. D'accord? Quelqu'un, il est tenté de faire quelque chose, il se maintient. Là, il commet de bonnes actions. D'accord? Donc on doit ne pas le faire. Nous devons ne pas le faire. Tout le monde a compris? D'accord. Ensuite, on a le conseiller, ou bien le recommander. Ce qui est recommandé. Il est recommandé de le faire. Mais ce n'est pas une obligation. Il est recommandé de le faire. C'est-à-dire, si tu le fais, tu as des bonnes actions, c'est sunna. Le prophète l'a fait. En opposition, par contre, si tu ne le fais pas, le recommander. Si tu ne le fais pas, tu ne commets pas de péché. D'accord? Il est juste recommandé. En opposition, on a le déconseillé. Ce qui est déconseillé de le faire. Makro. Alors, le déconseillé, celui qui fait le déconseillé ne commet pas de péché. Celui qui fait le déconseillé ne commet pas de péché. Par contre, s'il ne le fait pas, il considère qu'il a fait une bonne action. Parce qu'il est déconseillé. Est-ce que vous avez compris? Ensuite, on a Al-Mubah. On traduit par le permis. On a le permis. Tu le fais, tu ne le fais pas, c'est la même chose. Le permis. La prière, c'est obligatoire de le faire ou non? Celui qui ne la fait pas, commet un péché. On est bien d'accord. Celui qui ne fait pas la prière, commet un péché. On est bien d'accord. Mais en faisant la prière, on a des bonnes actions. Est-ce qu'il est autorisé de manger, de boire de l'alcool? Il est interdit. On est bien d'accord qu'il est interdit. Alors celui qui est tenté, il a l'habitude de boire de l'alcool, ensuite il s'abstient, il a des bonnes actions. C'est-à-dire, un, il faut le faire, l'autre, il ne faut pas le faire. C'est ça l'opposé. T'as compris? On appelle l'ahkam al-khamsa. D'accord? Ça va nous aider à comprendre le cas que j'ai cité tout à l'heure, on a de l'eau et on a des urines ou bien des impuretés qui sont tombées dans cette eau, elle n'a pas changé l'eau. Si elle l'a changé, on n'en parle plus, on jette cette eau. Elle n'est plus valable. Par contre, cette eau, on a des impuretés qui sont tombées dedans. Mais ces impuretés n'ont pas affecté cette eau. Elle n'a changé ni sa couleur, ni son goût, ni son odeur. Elle n'a pas changé. Est-ce qu'il est valable d'utiliser cette eau? Oui, il est valable. C'est quoi le hukm? Juste déconseillé. Elle est préférable. Si tu l'utilises, il n'y a pas de problème, c'est valable. C'est déconseillé du moment que j'ai la possibilité d'utiliser une autre eau propre. J'ai un robinet, je peux aller me faire mes ablutions dans un robinet, ou bien me nettoyer avec ce robinet-là. Dans le cas où j'ai que cette eau, je n'ai que cette eau, j'ai que l'eau où l'impureté est tombée et qu'elle n'a pas changé. Dans ce cas-là, elle ne va pas être du déconseillé, mais elle va être du permis. Puisque je n'ai pas de possibilité. Taïb. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour l'eau, je répète, j'ai de l'eau, j'ai une bassine, je veux faire des ablutions, j'ai des impuretés qui sont tombées dedans. Si ces impuretés-là ont changé le goût, l'odeur ou l'odorat, est-ce qu'il est valable d'utiliser cette eau? Non. Si rien n'a été changé, ni l'odeur, ni le goût, ni l'odorat, rien n'a été changé, c'est quoi le hukm? Juste déconseiller. Déconseiller dans le cas où j'ai la possibilité d'utiliser d'autres eaux. Mais dans le cas où je n'ai pas de possibilité d'utiliser que ça, est-ce que c'est déconseillé? Non, ce n'est pas déconseillé. C'est permis, puisque je n'ai pas d'autre solution. Un autre cas où, il faut bien comprendre ce que je dis, hein, si j'ai de l'eau et j'ai une impureté qui est tombée dedans et qu'elle a changé son odeur ou sa couleur ou son goût, et j'ai que ça, est-ce que je l'utilise pour les ablutions? Je ne l'utilise pas. Vous avez compris. Le fond, Inch'Allah, prenez cette règle, appliquez-la tout le temps. D'accord? Vous remontez l'eau, hop, ça a changé. De goût, de couleur, d'odeur, j'utilise pas. Non. Oui, ça c'est de l'origine. On a parlé tout à l'heure que ça rentre de l'origine. C'est comme les sources, c'est son origine qui est comme ça. Par exemple, même si vous avez des grandes citernes de plastique, vous avez de l'eau qui est dedans, ça restait une semaine, ça a pris. Mais l'eau, elle est neutre, on n'a rien fait. C'est juste le plastique qui dans ce goût-là, elle est valable. Non.
Si l'eau des puits, elle est polluée par les nappes phréatiques, c'est-à-dire les pesticides, etc.
Oui. La règle. La règle, appliquez la règle.
C'est pas considéré comme c'est l'eau qui pollue directement.
Non, appliquez la règle. Si l'eau, s'il y a un changement d'odeur, de couleur, de goût, ça y est, elle perd sa nature. Elle ne perd pas de la nature quand elle est à l'origine. C'est-à-dire, vous avez des sels minéraux, vous avez des arbres, vous avez, je sais pas, du fer, du magnésium, vous avez tout ce que vous voulez, qui est dans la terre, qui n'est pas sorti, vous avez bien du sel, et que l'eau passe par c'est-à-dire quelque chose qui est naturel, et qu'il prend la couleur ou le goût ou de quelque chose qui est naturel, ça, ce n'est pas considéré comme un changement. Mais du moment qu'il y a un changement extérieur, pollution ou autre, intervention de l'homme ou d'autre chose, là, c'est considéré comme un changement. Non.
Par exemple, on a juste un seau de
poids.
Oui. Et l'impureté qui est tombée dedans.
Oui.
Après, comment on fait? On reporte notre prière à plus tard ou... On a que ça comme...
Là, oui, mais il faut... C'est pour ça que je disais, patience. Là, je ne parle que de l'eau. On va parler après, il y a les ablutions sèches. Si vous n'avez pas d'eau, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les ablutions sèches, avec une pierre naturelle, etc. Je vais parler de ça, de la façon, etc. Je ne peux pas en parler. Si je parle des ablutions sèches, ça va être tout un cours. Mais retenez seulement qu'il y a une alternative à cela. D'accord? Et qu'on ne peut pas laisser l'heure de la prière sortir. Il faut prier avec des ablutions sèches. Et on va parler de qu'est-ce que c'est que les ablutions sèches, qui est autre chose que l'eau. Il faut prendre quelque chose de naturel et... c'est-à-dire il faut frapper et essuyer le visage, etc. Soit par la terre naturelle ou bien des pierres, on va en parler, Inch'Allah. D'accord?
Dans le cas des pesticides, à la source, on récupère l'eau comme ça, non? C'est comme le cas du robinet où on sent le chlore, enfin, toutes les odeurs. C'est l'intervention de l'homme aussi.
Si les pesticides sont faits dans un terrain limité, déterminé, connu, et que ça infecte un puits ou quelque chose comme ça, on ne l'utilise pas. C'est considéré comme un changement. Par contre, si ces pesticides ou d'autres produits, etc., sont utilisés dans un cadre, on appelle ça le cadre général. Dans le qaïda, on dit « umoum l'belwa ». C'est-à-dire, c'est considéré, pas pour un terrain, c'est pour tout le monde. Là, c'est inévitable. Quand ça devient inévitable, on l'utilise. D'accord ? Par exemple, vous avez des grands châteaux d'eau, on met du chlore pour telle ou telle chose. Donc ça, c'est autorisé. Parce que c'est destiné, pour, vous pouvez éviter. Vous êtes chez vous, vous ouvrez le robinet, c'est comme ça. Donc ça, c'est autorisé. D'accord ? Dans ce cas-là, quand c'est destiné pour tout le monde, on ne peut éviter, ça c'est permis. Par contre, si vous avez un terrain, vous utilisez un pesticide à l'homme, pesticide, et le terrain il est limité, vous avez une source, elle est infectée, là c'est pas autorisé. Il me faut. Voilà, vous utilisez toujours la règle, retenez la règle, si la couleur, le goût, l'odeur a changé, on ne l'utilise pas. Tout le monde a compris ? Retenez cette règle. Alors, il est déconseillé d'utiliser aussi, j'ai de l'eau, il y a quelqu'un qui a fait des ablutions, et l'autre, il récupère de l'eau en bas par une bassine. Ça vous paraît bizarre parce que vous n'avez pas de problème d'eau ici, machin. Moi, j'ai vécu dans des endroits, dans le désert, où la goutte d'eau, elle a sa valeur. Donc, elle a vraiment sa valeur. C'est-à-dire, on fait les ablutions, trois ou quatre personnes par le même eau, il n'y a pas d'eau. Donc, là, il fait les ablutions, l'autre, il récupère en bas. D'accord ? Oui, vraiment, il n'y a pas d'eau. Donc, cette eau-là, il est déconseillé de l'utiliser, mais c'est valable. Hein, il se lave le visage, l'autre, il récupère en bas l'eau. Cette eau, elle est valable, mais elle est déconseillée. Est-ce que vous avez compris ? Le cas du puits, je vais vous dire, le cas, parce que vous posez le cas de pourquoi j'ai des permis. Non, ce n'est pas interdit. Bien sûr, s'il y a un changement, on n'utilise pas. Parce que les savants, ils ont parlé du puits, puisque l'eau du puits, en général, c'est comme la rivière, c'est-à-dire elle n'est pas stagnée. On croit qu'elle est stagnée, mais elle passe, hein, l'eau du puits, elle passe. C'est pour ça que les savants, ils ont dit, c'est pas déconseillé. C'est ça rentre dans le permis. C'est-à-dire que c'est pas une bassine. Puisqu'elle bouge, c'est comme une rivière. D'accord ? En dessous, ça bouge. D'accord ? Donc c'est pas déconseillé. S'il n'y a pas de changement, c'est pas déconseillé. Vous avez compris ? S'il y a un changement, on ne l'utilise pas. Parce que le cas du puits, il n'est pas comme le cas du seau. Parce que le seau, vous avez, c'est stagné. Non. Exact. Non.
Tu as dit l'eau, qui est en fait quelqu'un qui a ses émotions, qui parle par l'eau. C'est déconseillé. Je pense que c'est par l'eau qu'en fait, c'est tout.
C'est conseillé. C'est-à-dire, le déconseillé reste, mais le tabac, on ne l'utilise pas pour les ablutions, plus pour boire, pour s'essuyer, etc. Ce n'est pas la même chose.
Non. Je ne sais pas, il est déconseillé de s'essuyer après faire les ablutions, non ?
Non. Non, ce n'est pas déconseillé.
On peut s'essuyer.
Bien sûr. Alors, vous avez quelqu'un qui a l'habitude de boire de l'alcool. Oui, parce que des fois on dit, vous savez, hein, un petit peu, c'est autant. Bah, c'est pas. Une goutte, c'est interdit. Hein. Ce qui est interdit, un litre, une goutte, c'est interdit. Il n'y a pas de. Alors, c'est un alcoolique, moi j'ai préparé mon seau pour faire mes ablutions, et lui, il est venu, il a bu de cette eau-là. Il a bu un petit peu. C'est déconseillé d'étudier de cette eau. Mais c'est autorisé. Est-ce que vous avez compris ? C'est déconseillé, mais c'est autorisé. Il a bu, il a mis sa bouche, mais je sais que c'est pas que je l'ai vu en train de boire l'alcool, ensuite il l'a vu nu. Il y a une différence. Je ne l'ai pas vu en train de boire l'alcool. Alors si, moi je vais voir si vous avez bien compris, si je l'ai vu, il était en train de boire de l'alcool. Ensuite il est venu, il a bu un peu de mon eau. Est-ce que l'eau que je vais utiliser pour mes ablutions, elle est valable ou non ? Il n'y a aucun changement.
Il
n'y
a pas de changement.
Il n'y a ni changement. Il n'y a ni changement de goût, ni changement de couleur, ni changement d'odeur. Est-ce que c'est valable ? Oui, c'est valable. Mais c'est déconseillé. Pourquoi ? Parce que l'alcool, c'est une impureté. Vous avez compris ? Non. Tous les animaux, retenez cela, sont purs. Même le porc, même le cochon. Même si c'est un chien qui vient boire dans votre bassine, l'eau, elle est valable. Même si c'est un porc. Vous appliquez la règle des trois conditions. Qu'est-ce que vous avez dit, madame? C'est-à-dire, vous cherchez pourquoi il est interdit de manger du porc. Par contre, il est autorisé si un porc vient boire de l'eau et que c'est la chair du porc qui est interdite de consommer. Mais lui, il est venu boire, pas de problème. D'accord. Donc, on parle bien, on est dans l'école malikite. Parce que vous avez dans l'école hanafite ou shafiite, on va vous dire cette eau, elle n'est pas valable du moment qu'elle a été touchée par le porc ou par le chien. Mais je parle bien de l'école malikite qui est seulement dans l'école malikite que tous les animaux sont propres du moment qu'ils sont vivants. Parce qu'on va détailler cette question, ne vous inquiétez pas. S'ils sont morts, etc., etc. Du moment qu'ils sont vivants, ils sont tous propres. Vous avez un chien, ça salive, machin. Bien sûr, c'est-à-dire, c'est l'hygiène, hein, c'est nettoie, on ne va pas boire cette eau, le chien, etc. Mais point de vue jurisprudence, elle est valable pour les ablutions.
L'eau de la piscine.
Pourquoi? Pourquoi? C'est tout. Vous appliquez la règle. C'est-à-dire, vous avez une piscine, vous avez. Vous ouvrez la piscine? Vous avez des robinets, l'eau, elle coule. Ensuite, le goût, il n'y a pas de changement. Bien sûr, si vous mettez des produits, etc., ça, appliquez la règle. Mais faut, Inch'Allah. Alors, si je vais vous poser la question pour vous savoir si vous avez compris. Vous avez votre piscine qui prend, je ne sais pas combien de litres, là, et vous avez mis du produit. Pour, je sais pas moi, microbes, etc. Et vous avez constaté aucun changement, ni de goût, ni de couleur, ni d'odorat. C'est valable d'utiliser pour les ablutions? Il n'y a pas de changement. Mais faut. La règle, il faut l'appliquer. Mais faut, Inch'Allah. Par contre, si vous avez des impuretés qui sont tombées, revenons aux questions qu'elle a posées la soeur, un rat, machin, etc., qui est tombé. C'est une impureté. Mais il n'y a pas de changement. C'est valable, mais c'est juste déconseillé. Puisqu'il n'y a pas de changement. Vous avez compris? Mais faut, Inch'Allah. Non, ce n'est pas une impureté, mais ce n'est pas valable. C'est comme des boissons ou du coca, machin, etc. Vous pouvez l'utiliser dans la cuisine, mais vous ne pouvez pas l'utiliser dans les ablutions. Vous pouvez consommer, bien sûr. Non, j'avais des gouttes de Javel dans pas la Javel, des gouttes de Javel dans... Non. Jusqu'à présent, c'est bon. Alors, on a dit, bon, il y a divergence entre les écoles. Dans l'école malikite, pourquoi l'argument qui est avancé par les malikites, que tous les animaux sont propres, c'est qu'il y avait, il y avait de l'eau à Médine, donc il y avait tous les animaux qui venaient boire, des lions, si vous voulez, des chiens, des renards, tout venait boire, et les sahabas et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient leurs ablutions dans cette eau. Donc les savants des gens de Médine ont dit que voilà, c'est un argument, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions ici, donc c'est valable, si c'était impur, ces animaux étaient impurs, le prophète n'aurait jamais utilisé cette eau. Mais from Inch'Allah. Oui. Alors, donc les animaux qui sont interdits de consommation, s'il est vivant, il est propre. Quand on dit un animal propre, c'est-à-dire ses larmes, c'est-à-dire sa salive, sont propres. Et s'il a des œufs, les œufs sont propres, sauf si les œufs sont pourris. Donc, tout est propre chez l'animal, comme on a dit. Alors, quand on égorge un animal... le sang qui coule, maintenant on va parler des impuretés, le sang qui coule, le sang c'est une impureté. Les urines c'est des impuretés. D'accord? Le sang c'est une impureté, les urines c'est des impuretés. Les animaux dont il est autorisé de manger, par exemple la vache, mouton, chèvre, tout ça. Alors, leurs excréments et leurs urines sont pas impurs, ils sont purs. Les animaux dont il est autorisé de manger. Donc leurs urines, leurs excréments, ils sont pas impurs. Donc si vous attachez par cela, et vous faites votre prière, la prière elle est valable. Est-ce que vous avez compris? Les animaux dont il est interdit de manger, ou déconseillé de manger, leurs urines, leurs excréments, qui sont impurs. On a les animaux dont il est autorisé de manger. On a les animaux, il est interdit de consommer. Ceux qui sont autorisés de manger, leurs excréments et leurs urines, elles sont pures. Les autres dont il est interdit de consommer, leurs excréments et leurs urines, et aussi leur lait, il est impur. Mafoum Inch'Allah. Oui. L'urine des bébés, c'est considéré comme une impureté pour le cas général. Par contre, pour une femme qui allait à son bébé, c'est-à-dire le bébé, il est pris par une femme. On va parler de l'homme, puisqu'il y a des hommes maintenant qui s'occupent des bébés. Si celui qui s'occupe du bébé, s'il est taché par ces urines-là, puisqu'il est en contact avec lui tous les jours, ce n'est pas considéré comme une impureté. Il lui est juste recommandé d'avoir un habit pour la prière. Recommandé. Donc ces impuretés-là, parce que là, pourquoi ? Tout est dans la charia, la religion musulmane, c'est une religion qui donne une grande importance à ce qu'on appelle la gêne. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui devient haraj. C'est-à-dire, ça devient une gêne. On a un bébé, c'est-à-dire, à chaque fois, il peut nous tâcher. Donc, c'est pas interdit. Si on est taché, on peut faire la prière avec, même si on est taché, à condition que ce soit, c'est la personne qui s'occupe de lui.
Taïb.
Alors, on revient à la question qui a été posée. Si un animal impur est tombé, un animal quand il meurt, un rat par exemple, ou vous avez, on donne l'exemple du rat en général, il meurt, vous avez, on va dire, un seau de beurre ou de miel, de l'huile, et vous avez un rat ou un autre animal qui tombe dedans, il meurt dedans. Ah, pour l'araignée, non, ce n'est pas le même araignée, scorpion, les petites. Les insectes, ils n'ont pas le même cas que le rat, etc. Alors, je parle du rat, je parle de chat, je parle de ce qu'on appelle dans le fer, ceux qui ont du sang. D'accord, ils ont du sang, etc. Alors, ces animaux-là, s'ils tombent sur quelque chose qui est liquide, dans quelque chose qui est liquide, ils meurent dedans, tout devient impur, c'est à jeter. C'est parce que c'est pas de l'eau, hein. Parce que c'est de l'huile, parce que c'est du miel, parce que c'est du beurre. Si c'est liquide, donc c'est à jeter. Il est interdit de l'utiliser. C'est pas la peine de chercher, il a changé, il n'a pas changé, puisque le changement, on parle de l'eau. D'accord ? Quand on a parlé des trois conditions de changement, c'est de l'eau. Là, c'est du miel. On est en train de parler, est-ce que j'ai du miel, moi, un rat est tombé dedans, il est tombé dedans. C'est un liquide. Par contre, si vous avez, il est tombé, mais c'est pas du liquide. Il est tombé sur quelque chose qui est solide. Enfin, vous avez du beurre, c'est du solide. Il est tombé, hop, il est resté en haut. Là, j'enlève la partie, j'observe qu'il n'a pas été dissous, à condition. Vous observez que, c'est-à-dire que ça n'a pas été dissous, il est en haut, on voit. Vous enlevez la partie qui l'entoure, et vous consommez ce qui reste. Donc si c'est du solide, j'enlève la partie qui l'entoure à condition que j'ai constaté que ça n'a pas été propagé. Si c'est propagé, on jette. Si c'est du liquide, on jette. Du miel impur. Tout ce qui tombe sur nous impur, il faut qu'on le lave. Toute impureté qui tombe sur nous, on la lave. Ça, c'est toute impureté. Des urines, des excréments, etc. Pour le sang, c'est une quantité. On va parler de cette quantité-là. C'est-à-dire une, deux gouttes de sang, etc., c'est pas considéré comme impureté. Alors, vous avez quelqu'un qui a saigné et il a plusieurs tâches. C'est-à-dire, vous avez des tâches, vous imaginez à peu près, si vous les rassemblez, qu'est-ce que ça va donner? J'ai une tâche ici, une tâche là, une tâche là. Si je les rassemble, ça fait à peu près l'équivalent d'une pièce de 5 francs. Vous allez dire, comment les fouqara, ils ont parlé de pièce de 5 francs? Moi, c'est pour vous faciliter. Les fouqara, ils ont parlé d'une tâche qui est sous le bras de la mule. La mule ne change pas à travers le temps, c'est la mule. Donc, de l'époque du professeur, toutes les mules, elles ont une tâche. D'accord? Dirham al-Barli. On appelle ça Dirham al-Barli. Donc si les tâches-là de sang que vous avez, vous les rassemblez, ça donne ça. Donc il faut les laver, c'est une impureté. Si vous avez deux, trois tâches, ce n'est pas une impureté. Vous pouvez prier avec cela. Pour le sang, pas pour les urines et autre chose. Les urines et autre chose, les impuretés, alcool, urine, excréments, ça, il faut l'enlever. Une tâche ou moins. Le frère ensuite.
Imaginons, par exemple, on s'est fait opérer des dents de sagesse et on saigne un peu pendant la première semaine en permanence des dents. Comment on fait? Est-ce qu'on peut faire? On fait quand même la prière.
Alors, ça c'est l'exception. Nous on parle de la règle générale. Mm-hmm. C'est-à-dire quelqu'un qui saigne abondamment. Donc il a le droit de, c'est-à-dire ça devient une gêne. Donc il a le droit de prier avec ça, c'est pas interdit. Donc il fait le nécessaire, d'accord. Il se nettoie, etc. Du moment que ça devient une gêne, bien quelqu'un qui est malade, il saigne. Vous avez des gens, ils ont des maladies qui c'est-à-dire ils saignent. Il peut prier avec ça. Ça devient pas une impureté pour lui. Mais dans là on parle du cas général des gens, d'accord. Le fond. Oui.
Si on n'arrive pas à retirer la tache de sang.
C'est-à-dire
les étages qui ne se retirent plus dans les...
C'est pas retirer, c'est laver. C'est-à-dire, nous, on doit laver. C'est-à-dire, une fois qu'on l'a lavé, même s'il y a la trace qui reste, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est de laver avec de l'eau. Attention, laver, c'est laver. Parce qu'on a des gens, il prend, il fait ça. C'est laver. C'est-à-dire, j'ai une tache ici, j'ai une tache là, je dois... Laver, que ça veut dire laver? C'est-à-dire qu'il faut que l'eau coule sur cette tâche. Et je dois la laver. Parce que vous avez des gens, il a une impureté, il prend un peu d'eau, il fait comme ça. Il a élargi l'impureté. Il l'attache, il fait, il a... Me forme. Il faut laver la partie. Naam. 2 cm, pas 5 cm. C'est 5 francs. 2 cm, l'équivalent de diamètre. Hein. Alors... Je vais approfondir un petit peu la question de l'impureté. Mais concentrez-vous avec moi. Impureté de on va dire d'urine. Ou autre. J'ai une impureté qui est tombée sur moi. Je suis sûr et certain qu'elle est tombée sur moi. Je la vois. Est-ce que je dois la laver pour prier ou non? Il faut répondre à ça. Je dois la laver. J'ai une impureté. Je la vois. Elle est tombée sur moi. Je dois la laver si je vais prier. Si je vais prier et je sais que je porte cette impureté, la prière n'est pas valable. Est-ce que vous avez compris? Dans la mesure où j'ai la possibilité de l'enlever. Si je ne peux pas l'enlever.
Si je mets un ramis en dessous de
quelque chose. Ben non, du moment que tu la portes, khlas. Du moment que je la porte, khlas. C'est-à-dire que c'est, je n'ai pas le droit. Il faut que je l'enlève. Il faut que je la lave. Mais faut, Inch'Allah.
Et si tu ne sais pas en fait?
Ah, ça c'est pour ça que je... Question. Ça c'est la première question. Première question, je porte en moi une impureté, je sais, mais je vais prier, elle n'est pas valable. Deuxième cas, je porte en moi cette impureté, tout à l'heure, il y a des urines, machin, etc., hop. Je me suis dit tout à l'heure, je vais me laver. Je vais laver cette impureté que je porte sur mon pantalon ou mon hijab, etc., ce que vous voulez. Mais j'ai oublié. Je suis rentré à la mosquée, j'ai fait mes ablutions, on a prié avec le groupe... On a terminé la prière. Quand on a terminé la prière, je me suis rappelé. Ma prière, elle est valable. Vous avez compris ce que c'est, ma prière, elle est valable. Il est juste recommandé de la refaire. Recommandé. De la refaire. Si le temps n'est pas encore sorti, on parlera de ce que ça veut dire le temps. Le premier temps. Mais on va, rappelez-vous juste, le temps n'est pas sorti. On parlera après que ça veut dire le temps. Chaque prière, elle a 3 temps. On parlera après. Maintenant, je me suis rappelé pendant la prière. Ma prière n'est plus valable. Je dois couper et sortir. Parce que je me suis rappelé que je porte. Je me suis rappelé pendant la prière que j'ai des impuretés sur moi. Je coupe la prière, je sors. Tu sors, tu portes une impureté en toi. Tu coupes, tu sors, tu vas te laver, tu reviens. Il ne faut pas rester un imam une fois, il s'est rappelé qu'il n'a même pas le wudu. Il dit, ah, c'est la honte quand même, bon, je vais sortir. Ah, c'est la honte aujourd'hui, mais le jugement dernier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a honte des gens, il n'a pas honte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, non. C'est une religion que tu t'en fous des gens. Alors là, si on commence à calculer les gens, vous faites pour les gens. Oubliez les gens. Parce que de toutes les façons, ils ne te donneront rien du tout, ils ne t'enlèveront rien du tout. De ce que Allah Azzawajal a décidé pour toi. Donc, ne te casse pas trop la tête. Observe Allah et oublie les gens. Si on commence à calculer les gens, on est mal parti. Chacun doit voir, lui, comment il règle son problème avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Comme ça, quand on s'est
aperçu
de la prière,
quand
on est en état d'impureté, on salue
On dit oui, par respect, on dit salam alaykoum et on sort. Par respect. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Non? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et on revient. On la lave et on revient. C'est comme si on vient de commencer avec le groupe. D'accord?
Si on coupe la prière et qu'on est entouré de deux rangs,
Alors on fait ça, c'est le même cas de quelqu'un qui a perdu ses ablutions en pleine prière, donc il tient son nez pour que les gens disent, voilà, il saigne. D'accord ? Il n'a pas perdu les... Comme ça, les Fouqaha disent ça, je vous dis ce que les Fouqaha disent, c'est pas moi qui invente ça. Et on ne sort pas, vous avez un rang qui est comme ça, et l'autre il va sortir comme ça. Non, il faut sortir par... comme ça, pour le faciliter à ceux qui sont dans le rang, vous facilitez pour faire le chemin. Ils font ça, l'autre il fait comme ça, bon, on lui laisse. On lui cède la place. Tu fais comme ça, il passe, et l'autre il va passer. Mais il tient son nez, pour dire qu'il a ses nez.
C'est du le son, il est impur.
Oui.
Est-ce que le son du prophète, c'est bon, le son, il est impur?
Non. Le son du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas impur.
Même si son urine n'est pas impur.
Non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'exception. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadun basharun la kal bashar. Muhammadun jawharatun bayna al hajar. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le diamant, c'est une pierre ou non? Comme toutes les pierres?
Non.
Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même chose. C'est un homme, pas comme les hommes. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Naam. Au moment de la prière. L'heure de la prière, il est large. C'est pour ça que j'en parlerai, Inch'Allah, que c'est quoi l'heure de la prière. C'est pas le mois Adin, c'est l'heure de la prière. Il est large. Pour vous donner un exemple, l'heure de la prière du Dohr, le premier temps, il dure du Adin jusqu'à l'Adin de l'Asr. Vous imaginez, donc vous avez à peu près 2 heures ou quelque chose comme ça. Ça, c'est le premier temps. Donc vous pouvez prier dans un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure, etc. Du moment que l'Asr n'est pas encore entré. Mais frère Inch'Allah, si je porte une impureté, et je suis à 5 minutes avant l'Adhan de l'Asr. Dans 5 minutes, il y aura l'Adhan de l'Asr. Et je n'ai pas encore prié de dehors. Et je sais que si je vais enlever mes impuretés, je vais rater, c'est-à-dire ma prière de dehors, je ne vais pas la faire dans le temps. Là, c'est autorisé de prier avec une impureté pour prier dans le temps. Mais ça, on va le traiter, Inch'Allah, ce sujet-là, quand on parlera des temps. Pas aujourd'hui, oui. Si. Oui. Ah, il faut qu'il sorte. Alors, s'il constate, dans l'école malikite, contrairement aux autres écoles, s'il constate qu'il n'a pas fait les ablutions, sa prière n'est pas valable dès le départ. Il faut qu'il se retourne et dise, excusez-moi, j'ai oublié de faire les ablutions. On recommence. Il y aura, soit ils vont l'attendre, il va faire ses ablutions, il revient. Soit il va faire ses ablutions, un autre doit recommencer dès le départ. Il n'a pas ses ablutions. Par contre, s'il est en train de faire la prière, bien que c'est une question qu'on va traiter avec des détails, hein, quand on parlera de l'imam, etc., etc., on traitera de ça. Par contre, s'il a perdu ses ablutions en pleine prière, c'est lui l'imam. C'est pour ça que les gens qui devraient être juste derrière l'imam devraient être des gens qui connaissent la jurisprudence. Maintenant, on a des petits garçons, machin, ils se mettent derrière l'imam. Non. Il faut laisser les gens âgés, les gens qui connaissent, qui se mettent juste derrière l'imam. Si jamais il y a un problème, c'est eux qui vont prendre le relais. D'accord? Alors, ceux qui sont derrière l'imam, dès qu'ils perdent ses ablutions, ils se retournent et regardent, ils tirent un d'eux. L'autre, il doit être connaisseur. Il sait pourquoi il l'a tiré, c'est qu'il sait que l'autre, il a perdu son ablution. Et il continue la prière. Lui, il va faire ses ablutions, il revient, il va être derrière. Vous avez compris? On traitera de cela avec des détails, ne vous inquiétez pas. C'est pas un péché, mais c'est considéré comme un non-respect. C'est un non-respect, c'est-à-dire il est avec Allah subhanahu wa ta'ala, il doit sortir pour faire... d'accord. Par contre, si c'est un imam, il commet un grand péché, parce que tous les autres, ils sont derrière lui. Il les induit en erreur. Mais c'est lui qui les guide. Ah, ce n'est pas valable. Ah, bien sûr. Chaque prière qui est invalide pour l'imam, elle est invalide pour les autres. Parce que c'est lui qui guide la prière. Vous avez compris? Parce que la prière, elle est en groupe, elle n'est pas individuelle. Alors, on a dit les impuretés, on a parlé de l'alcool, c'est impur, on a parlé du sang, on a parlé des excréments et des urines. On a différencié les animaux. Donc, les animaux qui sont interdits, alors, vous avez le porc, les animaux déconseillés, donc vous avez le chat, vous avez le chien, vous avez le renard, vous avez... Et tous les animaux qui sont, on va dire, qu'on appelle ça prédateurs. Voilà, les animaux prédateurs. Carnivores, prédateurs, tout ça, ils sont interdits de consommation. D'accord. Avec une divergence entre les écoles. Hein. On parle de l'école malikite surtout. Alors ces animaux-là, tous leurs excréments et leurs urines ne sont pas purs. Alors vous avez des gens qui ont ils ont des maladies, ils ont ce qu'on appelle des pertes. D'accord, des pertes. Vous avez quelqu'un qui a une femme ou un homme. C'est-à-dire, on parle hein, continence urinaire. Par exemple, il ne retient pas. C'est-à-dire, il a des gouttes, une femme ou un homme, il a des gouttes d'urine. C'est-à-dire, chaque une heure, chaque une demi-heure, il a des gouttes qui sortent abondamment. Donc, c'est-à-dire des gouttes qui sortent chaque une demi-heure, chaque une heure, toute la journée. Donc, celui-là, il n'est pas dans l'obligation de laver ses impuretés. Ce n'est pas dans l'obligation. Rappelez-vous, on a dit la religion musulmane, c'est une religion qui donne une grande considération à ne pas mettre la personne dans la gêne. Haraj. La contrainte. Oui. Ah, bien sûr, le sang aussi. Si on n'a pas répondu au frère quand il a posé la question de quelqu'un qui a levé une dent et que le sang ne s'arrête pas. La même chose. D'accord. Alors, pour les gaz, c'est la même chose. Quelqu'un, il a beaucoup de gaz, il se retient difficilement, il n'arrive pas à se retenir. Alors, les gaz, est-ce que on doit laver les vêtements ou non?
Non.
Là, pas les vêtements. On ne parle pas d'une autre école, un peu en dehors des écoles sunnites, qui dit les ébavites, ils disent qu'il faut laver. Ébavites. Khawarij. Donc, on ne lave pas les vêtements, mais, donc les gaz, on va parler, Inch'Allah, des choses qui annulent les ablutions, les gaz annulent les petites ablutions. Mais quelqu'un qui ne se retient pas, c'est pour ça que je n'ai pas parlé des gaz aujourd'hui, parce que ça concerne les ablutions, ça ne concerne pas le c'est-à-dire ça, on n'est pas obligé de laver. Le fond, Inch'Allah. Vous avez compris. Quelqu'un qui a perdu des gaz sont sortis, il lave rien du tout. D'accord. Il lave rien du tout. Mais ces ablutions ne sont plus valables. Mais s'il ne peut pas se retenir toute la journée, ces ablutions restent valables. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour le sang. Et pour, vous avez d'autres personnes, l'homme ou la femme, comment on appelle, on a traduit le madhi, liquide séminal. Donc liquide séminal, ça sort quand il y a un désir, etc., de l'homme ou de la femme, ça annule les ablutions. Dans le cas normal. Et c'est impur, on doit le laver. On doit le laver s'il tâche nos vêtements. Mais vous avez un cas où une personne, ce personnage-là, il a ce liquide-là qui sort toute la journée. Il a tout le temps des tâches, chacune demi-heure, chacune heure, il a une tâche. Ces tâches-là ne sont pas impures du moment qu'elles sortent toute la journée. Ça devient une contrainte s'il doit laver tout le temps cela. Mais faut, Inch'Allah, que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Vous avez compris. Alors le vomi tout dépend. Et, hein, vous avez quelqu'un qui est à côté de vous, hop, il a vomi sur vous. Bien, c'est vous qui avez vomi. Ça arrive. Est-ce que c'est impur ou pur? On va voir sans changement. Si il est acidé, il a changé, c'est impur, il faut le laver. C'est juste quelqu'un qui vient de manger, il a rejeté, on voit que c'est le manger, il n'a pas encore subi le changement, donc c'est ce qu'il a mangé qu'il vient de sortir, donc ça c'est pas impur. Mais faut Inch'Allah. Si on sent que le vomi quand même, il a, quand il sort, des fois il subit un changement, il a un odorat forte, etc., acide, etc., donc ça c'est impur, il faut le laver. Mais faut Inch'Allah. Oui. Non, ça annule pas les ablutions. On va pas parler de ce sujet de les ablutions. Ne vous inquiétez pas. Alors, je ne porte pas au moi une impureté. Mes vêtements sont propres, il n'y a aucune impureté. Mon corps, il n'y a aucune impureté. Par contre, l'endroit sur lequel je veux prier, il y a des impuretés. La prière n'est pas valable. L'endroit sur lequel je prie, il faut qu'il soit propre. Il ne faut pas qu'il y ait des impuretés sur l'endroit où je prie. Je vais prier, il y a des urines partout. Ça n'est pas valable. Donc la prière n'est pas valable si tu portes une impureté sur tes vêtements ou ton corps ou l'endroit sur lequel tu pries est impur. Ça, c'est dans le cas général. Tapis ou pas tapis, c'est-à-dire que tu pries sur lui, c'est impur. C'est-à-dire que si tu pries ici et les urines là-bas, non. On parle, c'est-à-dire sur l'endroit où toi tu pries. Me forme, c'est-à-dire où je mets mes mains et mes pieds, etc. Me forme, c'est-à-dire ce que je touche, on va dire. Me forme, Inch'Allah. Non. Comment ça, tu ne touches pas?
Tu mets le tapis sur l'impureté.
Ah, tu mets l'impureté là en dessus, tu mets le tapis dessus. Ouais, mais tu la touches, sahbi. Même si l'impureté est en dessous et le tapis il est au-dessus, ça veut dire toucher. Même si tu ne la touches pas directement. Indirectement, tu es dessus. Par contre, si l'impureté est là, moi je mets ma main ici, c'est valable. Mais si comme ça, c'est pas valable. Ma femme ? D'accord ? Donc, il est préférable de s'éloigner. Non, ceux qui sont... Non, c'est pas les impurs. C'est-à-dire, c'est quelque chose de pur. On parle des choses qui sont impures. C'est pour ça qu'on a parlé des choses pures et impures. D'accord ? Alors, ça c'est dans le cas, oui. Non, il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas d'impureté. La saleté, c'est pas l'impureté, hein. C'est sale, il y a de l'argile, machin, etc. Point de vue, bon, c'est pas hygiénique, machin, mais est-ce que c'est pur, c'est impur, c'est pur. Mais il faut toujours considérer ça. Maintenant, ça c'est le cas général, où je, c'est-à-dire, je peux nettoyer, je peux éviter, etc. Mais dans le cas où je ne peux pas, j'ai pas un autre endroit. Quelqu'un qui est en prison, quelqu'un qui est dans un train, il est fermé, machin, quelqu'un qui est... Il est dans un endroit où l'heure de la prière va sortir, il n'a pas d'autre solution que prier sur cette impureté. Sa prière, elle est valable. Du moment qu'il n'a pas d'autre possibilité. Donc il va retarder sa prière jusqu'à ce qu'il a la possibilité d'avoir un endroit pur. Mais du moment qu'il n'a aucune autre solution, il peut prier. J'ai pas entendu. Ah, mais il faut voir, il faut voir, poser la question. S'il me voit, qu'est-ce qui va se passer? T'as compris? S'il me voit, ah c'est la honte, machin, non, laisse-les te voir. C'est la honte, machin, bon, on va découvrir monsieur le monde, c'est pas fou. S'il me voit, ils vont me licencier, non. Là, c'est, c'est-à-dire l'islam, retenez ça, prends en considération six objectifs importants de la religion musulmane. Six grands objectifs. Maqasid sharia, les objectifs de la sharia. Beaucoup de gens font le fatwa sans prendre en considération les objectifs. Les grands objectifs de la sharia, elle les prend en considération, notez-les, la religion, préserver la religion, préserver la santé, préserver les biens, préserver Nasl, c'est-à-dire préserver la continuité de l'homme, quoi. Voilà, la postérité, la descendance, etc. La dignité et l'esprit, l'aql, la raison. Alors, si une de ces six est touchée, le hukm, il faut le changer pour préserver. Le hukm, c'est le commandement, la règle. C'est interdit de boire l'alcool ou non? Attends, je vais voir si tu as compris. C'est interdit de boire l'alcool ou non? Tu es dans le désert, tu t'en bois pas, il n'y a rien du tout, tu as une bouteille de champagne. Il n'y a rien, il n'y a que ça. Tu ne bois pas, tu meurs. La religion, qu'est-ce qu'elle nous dit? Préserver. La religion, préserver
la santé.
Si tu ne bois pas, tu meurs. Tu peux ou tu es dans l'obligation? Tu es dans l'obligation, Sahbi. C'était interdit, tu devais... Bien sûr, il ne faut pas que tu meurs. Ça change le hukm. Regarde, c'était interdit et devient obligation. Parce qu'on a les six objectifs qu'il faut prendre en considération. Tu dois vivre. Tu es dans l'obligation de boire juste pour rester vivant. Le porc, c'est interdit, oui. Il n'y a rien du tout. J'ai qu'un morceau de porc. Y a rien. Si je ne mange pas, je vais mourir. Tu es dans l'obligation de consommer pour rester vivant. Est-ce que vous avez compris? Donc ces objectifs-là, le mufti, pas vous, le mufti prend en considération ça, quand on passe pour ça, les gens, ça pourrait être, ah, c'est bizarre, machin, mais il y a des objectifs de la sharia. Et les gens, ils font beaucoup de choses sans comprendre comment le savant, il a dit ceci, cela, le savant, il n'a pas le temps d'expliquer tout ça, c'est toute une méthodologie très complexe, de sens, de fondement de Osul Fiqh, pour arriver à un hukm. Nous, on est censé d'avoir directement le hukm, si on commence à nous détailler, on ne va rien comprendre. Mais faut m'y comme tu chambres.
Non. Si par exemple je suis sur le lieu de mon travail, le seul endroit où je peux faire la salade, c'est les toilettes. Et je ne sais pas si c'est propre ou pas.
Si c'est le seul endroit, et si même si tu retardes la prière, parce qu'on la retarde avant que son temps sort, il reste 5 minutes que le temps sort, et que ça n'a pas changé, tu pries dans un endroit impur. Et que tu ne laisses pas le temps sortir. Me font ? Donc on a parlé de l'endroit. Il faut que l'endroit soit propre. Maintenant, tout à l'heure, j'ai commencé à parler sur un cas, on n'a pas continué. Il y a une impureté. Quelqu'un a maintenant les toilettes, vous savez, c'est quelqu'un il va aux toilettes, hop, il y a une impureté qui saute sur lui. Des gouttes, il les a vues, il est sûr. Il a vu les impuretés, il est sûr. Il doit les laver. Maintenant, il y a des impuretés qui sont, on va dire, éjectées, mais il ne sait pas s'il a été touché ou non. Dans le premier cas, il est sûr. Il la voit. Deuxième cas, il ne sait pas s'il a été touché ou non. Il est dans le doute. Là, il ne lave pas, puisqu'il ne sait pas. Attention, ce n'est pas qu'il sait qu'il a été touché. Il ne sait pas s'il a été touché ou non. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait mouiller un peu ses doigts, il fait comme ça avec de l'eau, dans tout l'endroit, pour enlever le hokm. Il fait, comment on dit, je sais pas, mouiller ses mains, il asperge un peu l'endroit où il peut être, ça a été touché. Mais pour lui, il ne sait pas si ça a été touché ou non. Troisième cas, il a été taché, il est sûr, mais il ne sait pas où. Troisième cas. Donc il a été taché. J'ai vu que les urines papes m'ont touché, mais où, je ne sais pas. On est dans l'obligation de laver tout l'endroit où on a un doute. Je sais que ça m'a touché dans mon pantalon, pas dans la veste, mais dans le pantalon. Mais où dans le pantalon, je ne sais pas. Je suis dans l'obligation de laver tout le pantalon. وَبِرَسْلِ جَمِيعِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ كَمَا قَالَ خَلِيلَ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى. Donc, on lave tout l'endroit où j'ai un doute que ça a touché, puisque je suis sûr que ça m'a touché, mais où, je ne sais pas. Le cas seul où j'asperge, c'est que je ne sais pas si ça m'a touché ou non. Est-ce que tout le monde a retenu cela? Oui. C'est autorisé. L'eau qui est bouillée pour la prière, elle a, c'est-à-dire le changement qu'elle subit, c'est vrai qu'elle a un goût un petit peu qui est différent de l'eau normale, mais il est valable. Ou bien que c'est comme l'eau qu'on laisse c'est-à-dire au soleil, elle a été touchée par les rayons du soleil et ça change, c'est autorisé, contrairement aux autres écoles. Dans l'école Malkite, c'est autorisé. Hein. Pour une question d'impureté? Si on est incapable d'enlever une impureté, ou bien on est incapable de trouver un endroit propre, on a que des endroits qui sont impurs, ou bien on a une impureté sur nous, on ne peut pas l'enlever, et que si on retarde l'heure de la prière sort, on l'a fait à l'heure malgré qu'elle comporte une impureté ou on est sur une impureté. L'heure de la prière, elle est très importante en islam. Pourquoi? La philosophie du temps en islam, il y a des thèses qui ont été écrites sur ce sujet-là. Le temps qui passe, c'est pas celui qui revient. Les Anglais disent le temps c'est de la monnaie, time is money. Chez nous, non, c'est la vie. Pour nous, le temps c'est la vie. C'est pas la monnaie. On n'est pas des mesures matérielles. Donc c'est la vie, le temps. C'est-à-dire le temps qui passe, c'est pas celui qui était avant. Tu dis, bon, ben, non, tu l'as pas profité, il est parti. Tu n'as pas profité de ce temps qui t'est donné à un temps T1, T2, c'est un autre temps. Tu ne vas pas rattraper celui qui est parti, il est foutu. Tu dis, non, moi, je n'ai pas fait de bonnes actions à ton T1, je les ferai de ton T2. Non, ton T2, c'est ton T2, TT2. TT1, il est parti, il est gaspillé. D'accord? La philosophie du temps en islam, elle est très importante. C'est pour ça que les prières sont réparties à travers le temps, pour que l'homme soit en cosmopolite, il doit rentrer en homogénéité avec l'harmonie que Allah Azzawajal a créée dans cet univers. La répartition du temps. On parlera, Inch'Allah, quand on traitera du sujet de la prière de cela. Bon, enlever ses impuretés, quelqu'un qui va aux toilettes, quand il va uriner, Jallakumullah, au bois pour les excréments, etc., il faut se laver. Il faut se laver. Donc, on enlève les impuretés avec de l'eau. Alors, les savants, aujourd'hui, ils ont fait une fatwa pour les urines. Si les urines ne sont pas dispersées, surtout pour l'homme, ils ont dit s'il y a un cas où on ne trouve pas d'eau, etc., etc., il n'y a que du papier pour l'homme, il n'y a que du papier, etc., et que ce n'est pas dispersé, il peut sécher vraiment, sécher avec du papier, il peut faire la prière dans la possibilité où il n'y a pas d'eau. Il va rentrer aux toilettes pour uriner. L'heure de la prière arrive. Il n'a pas d'eau pour se laver. pour laver son organe. D'accord ? Donc il peut sécher avec du papier. Jusqu'à ce qu'il n'y a aucune trace. À condition que les urines ne sont pas attachées tout le... D'accord ? Mefhoum, inchallah. Dave ? Oui, mais il n'a pas la possibilité de ramener l'eau dans les toilettes. Il a la possibilité de faire les ablutions là-bas, mais dans les toilettes, il n'a pas la possibilité de... S'il a la possibilité de ramener, non. Il faut qu'il se lave. Non, pardon ? La même chose, c'est la même chose. Si les urines sont dispersées, c'est la même chose. Il faut qu'elle... D'accord. Sauf si, dans le cas où le temps de la prière va sortir, on n'a pas de possibilité. Là, c'est possible. Donc, tout ce qui est impureté, on le lave avec de l'eau. Alors, les savants ont autorisé, pour celui qui n'a pas, on appelle ça l'istijmar, celui qui est dans plein air, il n'a pas d'eau. Il peut, c'est-à-dire, utiliser des pierres, que ce soit pour les excréments ou bien les urines, pour se sécher, pour enlever les impuretés. Il n'a pas d'eau, il utilise des pierres. Mais il n'utilise pas le bois, il n'utilise pas de l'herbe, mais il faut que ce soit des pierres naturelles propres. D'accord ? Ça s'appelle ça istijmar. Istijmar. Est-ce que tout le monde a compris ce qu'on a dit aujourd'hui ? On a fait tout le tour, normalement. Alors, les toilettes, vite fait, on rentre par le pied gauche aux toilettes et on sort par le pied droit et il y a des invocations à apprendre. Les invocations quand tu sors de chez toi, les invocations quand tu rentres aux toilettes, les invocations quand tu sors des toilettes, les invocations quand tu manges quelque chose, les invocations... L'islam, c'est une religion qui n'a rien laissé au hasard. Les sahaba disent... Allamana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kulla. C'est-à-dire qu'il nous a donné tous les détails. L'islam parle. Voyez dans les fins détails, même dans les besoins, comment on va les faire dans les toilettes. En s'appuyant sur le côté gauche. Scientifiquement, c'est prouvé. D'accord, le grand intestin, etc. Donc, il n'a rien laissé au hasard. Il parle de la gestion de la cité, de la politique, de l'économie, de l'héritage, des transactions. Il parle de tout. Comme il parle des choses qui nous paraissent banales, d'impureté, etc. Donc vous voyez que le Coran, qui est un livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah azza wa jal, comme elle parle de l'expansion de l'univers, comme il traite des questions de transactions, des questions de théologie, de jurisprudence, d'histoire, d'anthropologie, de sociologie, dans un verset, vous pouvez trouver tout cela, hein. Non seulement ça, mais avec une langue arabe très très forte, avec une rhétorique, avec une grammaire très très solide, que les grands aguerris arabes, de l'époque qui écrivaient la poésie très forte, étaient incapables de dire un verset qui est de ce niveau-là. Avec un rime, avec une force extraordinaire. C'est pour ça qu'ils étaient étonnés qu'ils voient le professeur le réciter, ils n'arrivent pas à le cerner, ils disent, bon, c'est de la poésie, non, c'est pas de la poésie, bah, c'est un fou, c'est pas un fou, c'est un sorcier, pas un sorcier, ils n'arrivent pas. Donc, juste pour dire c'est un prophète, ils veulent pas. Bien que beaucoup ont vu des miracles, comme on va, Inch'Allah, traiter, quand on va parler de théologie, de croyance, là, c'est juste la jurisprudence. Donc, on a parlé de ce qui concerne l'eau pure et impure. On reviendra, Inch'Allah, s'il y a des questions qui concernent l'eau. Donc aujourd'hui seulement, c'était la question de pureté, impureté et de l'eau. D'accord ? Je pense qu'on a fait tout le tour. Alors, je vais m'arrêter à cela pour aujourd'hui. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam wa sallam. Allahumma barik lana fi ma 'allamtana wa zidna 'ilman wa taqwa wa tawaddu'an ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin.